Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous posez au quotidien. Le 9 août 2020, passé, un drame s'est produit dans la réserve naturelle de Kouré, notamment l'assassinat par des hommes armés non identifiés de 8 personnes, dont 6 humanitaires français et 2 nigériens. Kouré est une commune rurale du département de Kolo dans la région de Tillabéri. En conséquence de la tuerie de Kouré, les autorités nigériennes ont proclamé l'état d'urgence dans tout le département de Kolo, dont dépend la commune de Kouré. Elles ont également décidé de la fermeture du site de Kouré et de l'interdiction de la circulation des motos. Du côté des autorités françaises, elles ont décidé de classer le Niger sous zone rouge, fortement déconseillée à leurs ressortissants. Ce soir, nous vous proposons de faire le point sur les conséquences à court et à moyen terme de ces décisions sur la réserve naturelle de Kouré, les girafes et le tourisme de façon générale. Le thème du forum d'aujourd'hui s'intitule donc comme suit « L'avenir du tourisme au Niger ». Cas de la réserve naturelle de Kouré. Pour en discuter, nous recevons M. Anafi Souleyman, directeur général de l'Agence de promotion du tourisme du Niger, APTN. Nous avons également avec nous M. Abdelaziz Taya, président national des guides touristiques du Niger. Également avec nous sur ce plateau, M. Maliki Alouza, il est le responsable zone girafe au niveau de la direction de la faune du ministère de l'Environnement. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce forum sur l'avenir du tourisme dans la réserve de Kouré. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train de parler donc de Kouré. Alors, dites-nous, M. Abdelaziz Taya, quelles étaient vos impressions, quelles sont vos impressions au sujet de ce qui s'est passé dans la réserve de Kouré?
Et je profite encore une fois de plus pour pouvoir remercier et présenter nos condoléances à la famille des victimes de ce qui s'est passé au niveau de Kouré et au nom des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Notre sentiment, c'est toujours un sentiment de désolation et d'amertume que nous avons déjà exprimé à maintes occasions.
Et vous, M. Anafi Souleyman?
Bien, d'abord, je vous remercie. Ce qui s'est passé à Kouré, pour nous, est un drame. Un drame à double titre. D'abord, personnel, parce que le personnel de l'association des guides du secteur des girafes sont des partenaires à nous. Parce que chaque fois que nous avons un visiteur pour un court séjour à Niamey, nous sommes fiers de lui recommander d'aller visiter. Et ils ont toujours été là pour nous accueillir et nous accompagner dans nos circuits. Ça aurait pu être avec l'un d'entre nous. C'est pour ça qu'au niveau de notre agence, avec tous les professionnels, nous nous sommes transportés sur les lieux, non seulement pour assister aux obsèques, mais aussi pour présenter nos condoléances à la famille et à l'association. Et à l'association et aussi aux agents qui sont sur le parc. Et je vous dis, deuxièmement, au niveau du service, c'est un drame parce qu'après la pandémie de la COVID-19, qui a mis tous les professionnels du secteur à genoux, ce drame est venu encore ternir l'image du Niger parce que pendant presque 2 semaines, on ne parlait que du Niger, du Niger, dans du Niger, et pas dans le bon sens.
Monsieur Maliki Alouza, responsable zone girafe, un mot par rapport au drame de Kouré.
Oui, l'événement de Kouré, ça nous a largement vexés parce que c'est les partenaires, parce que l'association, la Veine, l'agent qui a été tué, il est le président de la VEN, donc l'association pour la valorisation
de l'écotourisme,
au Niger. Lui, c'est le président de l'association. En fait, c'est à tour de rôle là, qu'il le fasse parce que chaque fois qu'il y a des touristes. Donc, il y a un membre donc, qui accompagne.
De la VEN, oui.
Et il se trouvait que le jour-là, c'était son tour. Et il avait accompagné l'équipe. Et à une certaine heure, on nous a appelé pour nous dire donc, voilà ce qui s'est passé. Ça nous a beaucoup vexés, ça nous a écœurés. C'était vraiment malheureux. Bon, nous, après, j'ai cherché à comprendre qui était acteur. Là, on nous a dit donc que c'est des humanitaires. Mais, de par le passé, ils n'intervenaient pas dans la zone.
Ouais.
Ils n'étaient pas partis pour intervenir dans la zone girafe. Ils sont allés pour
une visite,
pour, comme le font beaucoup d'expatriés, comme de nationaux qui se rendent, en tout cas.
C'était une randonnée, une visite.
Dans tous les cas, lorsque la vie est arrachée, ouais. Ça ne plaise à personne.
Personne.
Vraiment, ça ne nous a pas aimé.
Alors, voilà, nous allons avancer. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous présenter justement la zone girafe?
Oui, la zone girafe...
Ses richesses, quelle
région? La zone girafe, c'est un grand ensemble. C'est un grand ensemble en ces termes que... C'est pourquoi je vous refuse
de dire terme, la réserve.
Réserve. Parce que la réserve, c'est bien précis. C'est-à-dire qu'il y a des bornes. On connaît la limite.
La limite, oui.
Ici, c'est vraiment un espace large. En fait, c'est les animaux eux-mêmes qui se sont donné l'espace. Donc, en fait, la zone évolue en fonction de là où nous pouvons trouver la girafe. Donc, à un moment, quand encore le nombre de girafes était restreint, on était autour de 1700 km². Donc, comme étant définie la zone. Donc, elle était large de 1700 km². Mais aujourd'hui, les girafes sont
allés au-delà.
Oui, ils ont agrandi le domaine. Ils sont allés, en tout cas, très loin. Donc, on ne parle plus de cette première donnée. Sinon, c'est un espace, en tout cas, qui est composé de plateaux. Ensuite, vous avez le Dalol, tout le long de Dalol. Puis vous avez, en tout cas, beaucoup d'autres plateaux dans le nord. Vous passez depuis... c'est-à-dire quand les gens, donc, quand vous parlez girafe, ils voient Kouré.
Ouais.
Effectivement, nous avons Kouré, mais ça va au-delà de Kouré. Parce que vous passez, vous avez Kouré, la zone de Dinkendou, ça va dans la commune de Fakara. Il y a des plateaux là-bas où, en tout cas, il y a une métapopulation qui s'est installée. Ils ne reviennent même pas. Ils sont installés là-bas. Puis, vous partez de la zone de Falmey. Hein, et à un moment même, on disait qu'il y en avait qui étaient dans beaucoup plus proche de Gaïa.
Okay.
Et ensuite, dans la zone de Tibiri. Et l'idée de Dosso nous disait donc qu'il y a encore une métapopulation qui...
De girafes.
Qui est encore restée dans le plateau de la zone de Lougou, vers Douti. Donc, et dit par là, vous avez la zone de Dingazibanda. Vous avez Simiri. Oui, Simiri. Et même à côté de Wallam, vous avez les girafes. Donc, vraiment, c'est un espace géant. Parce qu'avec leur effectif maintenant, elles sont en train de gagner beaucoup plus
d'espace.
Justement,
par rapport aux effectifs, est-ce que quel est le chiffre approximatif? On parle de plus de 500. Quel est le chiffre à votre disposition?
Oui, bon, on est...
Le dernier dénombrement
nous amène à 664.
664,
et c'est
le 2019.
Oui, c'est le dernier, on n'a pas encore fait récent. Sinon, on s'apprêtait même à vraiment organiser cette séance de dénombrement quand les événements là se sont produits.
Alors, merci beaucoup pour ces détails, M. Maliki Alouza. Alors, nous passons à la deuxième partie de cette émission concernant donc l'importance et la valeur ajoutée de cette zone. En quoi la zone girafe de Kouré se distingue et comment décrivez-vous l'importance de cette zone?
Je dis que la girafe se trouve d'abord dans une zone, une brousse tigrée, c'est-à-dire en deux périodes, parce que ça évolue. Vous allez, par exemple, pendant l'hivernage, vous avez le maximum de girafes dans cette zone,
là,
donc sur le plateau. Parce qu'elle remonte pour éviter les embourbements.
Ah oui.
Donc, elle quitte donc les zones agricoles là pour remonter sur le plateau qui est dur, qui leur permet, donc, au vu de leur poids, qui leur permet d'aller, de marcher tranquillement. Maintenant, quand l'hivernage n'existe plus, donc c'est-à-dire quand la zone commence à être sèche et le terrain est devenu plus dur, et elle rentre, en tout cas, dans les zones considérées comme des champs. Bon, le plus souvent, ça fait objet de conflits, mais Elle rentre quand même dans cette zone-là pour varier, diversifier en tout cas son pâturage. De point de vue le tourisme, parce que c'est une zone de tourisme ouais. par excellence, parce que on a reçu jusqu'à dans les 1500 touristes, même nationaux. Hein, quand on parle de touristes, il n'y a pas que ceux qui viennent de l'étranger. Il y a nos concitoyens qui se rendent sur les lieux, donc ils partent, ils voient. Ils partent en visite donc, pour voir la girafe. Alors, donc, de point de vue touristique, vous voyez, ça a une valeur beaucoup plus économique.
Alors, cette catégorie des girafes, on dit que c'est une girafe, en tout cas, qui est unique en son genre, qui se trouve au Niger. On l'appelle Peralta, je crois, c'est ça?
Oui, bon, vous savez, ça ne va pas vous rentrer dans En fait, la girafe, elle n'est pas...
Ou la girafe blanche, je ne sais pas si c'est la girafe blanche.
Il y a beaucoup de variétés de girafes. Donc maintenant, celle qui est chez nous...
Au Niger.
Celle qui est chez nous, donc, c'est cette girafe à Camelo, Pardalis Peralta. Donc, c'est les taches là qui sont sur le corps de l'animal qui font la différence. Et c'est les taches de vers chez nous. Donc, c'est une girafe, vous voyez, elle est presque claire et tout ça. Alors que quand vous prenez les girafes du Maasai, les girafes de la zone du Kenya, et comme en Afrique du Sud, il y en a aussi au Cameroun et au Tchad. Donc, mais celle-là, elle est spécifique donc, à cette zone. Avant, on les appelait les girafes d'Afrique du Nord. On considère que c'est la girafe d'Afrique du Nord qui a migré et... aujourd'hui, qui ne se trouve qu'au Niger seulement.
Et on considère qu'elle est moins foncée, c'est ça? Et donc, elle l'appelle girafe blanche, c'est ça?
Bon, les gens peuvent l'appeler comme ça au vu de sa peau. C'est ce que j'ai dit. Donc, les autres n'ont pas le même type de couleur. Bon, c'est presque la même couleur, mais c'est
vraiment... Il y a quelques traits distinctifs.
Oui, des traits distinctifs, que les scientifiques ont pu faire la différence pour les noter comme tels. C'est là, c'est une sous-espèce.
Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous allons passer avec nos autres invités. Et pour savoir, M. Hanafi Souleymane, quelle est la valeur ajoutée de la zone girafe dans la balance touristique du Niger?
Bien, merci. D'abord, en termes de promotion de la destination, nous avons, par rapport à cette zone-là, un avantage absolu par rapport aux autres destinations d'Afrique de l'Ouest.
Et c'est quoi cet avantage?
C'est un avantage absolu parce que c'est une espèce qu'on ne trouve qu'ici. Donc, dans les autres pays, quand vous visitez des autres pays, vous n'avez pas la chance de voir ces animaux. Et rien que à cause de ça, elles peuvent motiver un voyage pour venir séjourner au Niger. Le deuxième avantage qu'elles nous offrent, c'est qu'elles sont à quelques kilomètres de Niamey. Ce qui fait que nous les proposons à chaque fois qu'il y a un événement important au Niger, même si c'est des gens qui viennent pour un séminaire, on leur propose un petit circuit en un week-end pour aller. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ONG Acted, qui même si elle n'intervient pas, quand même un expatrié qui vient au Niger
a besoin d'aller
quand même dans cette zone-là, se faire photographier, les visiter, les voir, pour au moins avoir vécu une expérience unique pendant son séjour. C'est souvent... le samedi et le dimanche, il y a beaucoup d'afflux. Donc, c'est un avantage parce que le tourisme, ce n'est pas seulement qu'on veuille visiter. En fait, c'est un pan de l'économie. Le touriste qui vient, il est transporté. Donc, celui qui le transporte, il est payé. Il mange, celui qui le restaure, il est payé. Il est logé, celui qui le loge, il est payé. Donc, c'est tout ça qu'on construit autour d'une destination pour qu'elle soit économiquement rentable. Et Kouré est économiquement rentable pour tous les professionnels qui sont à Niamey. C'est pour ça qu'elle a un avantage. Et l'autre avantage, je disais absolu, parce que c'est une variété de girafes qui n'existe pas ailleurs. Donc vous pouvez avoir visité...
On a la chance de voir en un rien de temps,
avec une route goudronnée à 60 km, vous avez la chance de les voir. Mais, donc c'est ça l'avantage qu'elle apporte pour nous autres.
Alors, et vous, M. Abdelaziz Taya?
Ok. Donc, sur le plan économique, comme vient de le dire le directeur, sur le plan national, on ne va pas venir là-dessus, mais au plan local, et vous allez voir, et ça donné un engouement de faire installer des petits commerces tout autour de cette zone. Parce que n'oubliez pas que la zone Kouré est située entre trois communes. Et ces trois communes, ils ont un représentant dans les structures qui gèrent les cas de visite sur le terrain.
Vous pouvez nous rappeler ces trois communes ?
Il y a Fakara, il y a la commune de Kouré, et la troisième c'est Dentiandou, ou c'est Falmaï. Donc, ouais. Donc il y a trois communes officiellement. Il y a quatre, donc le directeur bien directif, il y a quatre. Donc les quatre communes, en dehors des quatre communes, comme je viens de le dire, la zone s'étend au-delà.
S'étend au-delà, parce que
les dernières nouvelles, nous avons...
ces quatre communes, c'est là où on a une densité,
c'est donc, c'est ça, l'avantage économique pour la zone, où les gens en profitent, parce que c'est moyennant une somme, quand vous partez là-bas, il y a une somme que vous payez pour, comme on dit, un droit d'entrée dans le parc. Et ce droit-là, revient, il y a une répartition, une clé de répartition qui est entre l'environnement, et le tourisme et les communes et les agents qui sont sur place, l'association. Donc
il y a aussi les guides l'association de valorisation des locaux de tourisme qui accompagne chaque
visiteur et tout ça. Ouais, donc c'est. Même si les ressources ne sont pas significatives, quand même, les communes en font un bénéfice de ça pour vraiment, grâce à ces girafes aussi, ces communes ont bénéficié de certaines infrastructures que certaines ONG, certains partenaires ont voulu vraiment réaliser des infrastructures.
Des infrastructures, notamment d'addiction, peut-être d'addiction d'eau.
L'eau, accompagnement au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Donc, vous voyez, c'est ça et l'avantage économique. Local pour ces communes et les personnes vivant dans la zone. Tous ceux qui vont courir à partir du poste où il faut prendre les guides pour aller visiter. Vous voyez le petit commerce qui a été vraiment installé et que les gens, chacun trouve son compte. Et vous savez encore la particularité, comme tout à l'heure vient de le dire les deux responsables, c'est les dernières girafes qu'on trouve à l'Ouest. C'est les dernières girafes. Parce que c'était une grande zone. Vous prenez à partir du Sénégal jusqu'aux confins d'Éthiopie. Il y a ces girafes-là. C'est leur zone. Mais maintenant, avec le changement climatique, l'espace qui a été grignoté au fur et à mesure, donc, les girafes...
Ils ont été contraintes de ces...
je ne dis pas contraintes parce que il y a des périodes où, vous voyez, on les trouve même à 20 km de Niamey. Il y a des périodes. Parce qu'à cette période où maintenant, vous voyez, avec toutes ces inondations, donc les girafes préfèrent remonter sur les plateaux pour vraiment être eux-mêmes se sécuriser. Et c'est pendant la période un peu mois d'avril où les ponts d'eau se font rares que vous les retrouverez, ils se retournent dans les dalors pour pouvoir vraiment, après avoir fait brouter leur nourriture, ils préfèrent être à côté des ponts d'eau. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un avantage qu'on a. C'était le dernier même produit que nous proposons, un produit touristique dans la zone, surtout au Niger, compte tenu de certains problèmes, paramètres que vous voulez, l'insécurité, ceci, cela. Donc, c'était dans le dernier.
Concernant les autres destinations touristiques.
Nous avons les hippopotames. Mais aujourd'hui, avec ces problèmes d'insécurité, on ne peut même pas aller visiter ces hippopotames. Nous avons le parc W. Mais compte tenu encore toujours de l'insécurité, de la présence d'un certain nombre de personnes que nous estimons qui peuvent nuire à l'image du pays. Et vous voyez, l'autorité a pris des mesures pour pouvoir vraiment éviter ces sortes de problèmes qu'on a eu à Kouré.
Alors, avant de continuer sur les conséquences des mesures prises, je voudrais savoir, M. Malik Alouza, responsable de la zone girafe, comment et par qui se fait la protection de la faune, donc justement de la zone girafe?
Le volet protection, c'est... Vous savez.
Et suivi, contrôle, voilà. En tout cas,
donc,
un peu de...
Bon, en gros, disons que la faune est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement. Maintenant, pour parler plus précisément de de la girafe. Au niveau donc, parce que toute cette zone que parcourt la girafe, nous avons nos structures. Nous avons partout dans les services communaux de l'environnement. Donc chaque fois que un groupe de girafes est dans une zone, nous avons donc les informations relatives à sa présence. Et à travers nos agents qui sont au niveau donc des communes. Ensuite, nous avons la population elle-même. La population, c'est en fait, à travers vos canaux là, nous avons fait beaucoup de bruit pour que
les gens comprennent
que la girafe est un patrimoine national. Ça appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas qu'aux forestiers. Donc, on fait en sorte que la population s'intéresse à protéger. Parce que si déjà, parce qu'on protège contre qui? D'abord, c'est contre les agresseurs. Les premiers agresseurs, souvent, c'est la population.
Ouais.
Si la population est déjà favorable à ce que la girafe
séjourne
de façon pacifique chez elle, en paix, il n'y a pas de problème. C'est donc la population intervient aussi. Bon, nous avons d'autres relais, c'est-à-dire il y a des informateurs locaux que nous avions un peu partout dans la zone girafe, et donc qui nous remontent l'information et chaque fois que il y a en tout cas une population de girafes dans une zone. Et ou s'il y a des risques de braconnage ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça que nous faisons. Et en même temps, presque partout, hein, les maires sont impliqués. Les maires sont impliqués dans la protection.
Et c'est les maires des différentes communes.
Oui, toutes les zones, en tout cas, où les girafes cohabitent, quand nous partons en mission de suivi, de supervision ou de protection, on fait escale. On explique que, bon, voilà. Et ça, on fait en sorte que ça intéresse, en tout cas, la structure de la population. Et c'est ce que nous faisons. En tout cas, c'est un travail qui n'est pas strictement réservé à nous. Nous
faisons en sorte que l'environnement, c'est
quelque chose ça intéresse en tout cas tous les Nigériens pour que ça soit fait comme ça.
Bien. Alors, on avait noté en début que voilà, après ce qui s'est passé dans la réserve, des mesures ont été prises au niveau interne et au niveau international. Au niveau interne, il y a l'état d'urgence qui a été proclamé dans le département de Kolo, où se trouve la commune de Kouré. Il y a aussi l'interdiction de la circulation des motos, la fermeture du site. Le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères français, avait, suite à cela, colorié le Niger en rouge, donc autrement dit, fortement déconseillé aux ressortissants français. Quels sont, M. Anafi Souleymane, directeur de l'Agence de promotion du tourisme au Niger, quelles sont les conséquences immédiates qui ont été ressenties et qu'on ressent aujourd'hui encore, et quelles sont les conséquences à long terme ou à moyen terme par rapport à ces différentes décisions prises sur la réserve et sur le tourisme?
Chaque fois qu'un site touristique est fermé, les impacts sont d'abord sur les professionnels qui interviennent dans le secteur. C'est-à-dire les transporteurs, les hébergeurs, les restaurateurs qui interviennent dans le secteur, c'est eux qui souffrent. Mais aujourd'hui, par rapport à Kouré, il y a certains acteurs pour lesquels on ne peut même pas mesurer l'impact. Parce que à Kouré, même s'il n'y a pas un restaurant formel, très souvent, les gens achètent leurs provisions à Niamey, chez les bouchers, chez les vendeurs de fruits, chez les vendeurs d'eau et d'autres boissons.
Qu'ils emportent avec eux.
C'est sûr qu'il y a un manque à gagner, puisque maintenant, les gens ne vont plus. Il y a aussi ceux qui louent les véhicules pour amener ces gens. Et les chauffeurs qui les conduisent, qui vont se retrouver désœuvrés, où il faut les recycler dans autre chose. Les motos. Dans cette zone-là, les motos, ce sont surtout les kabou-kabou. Ce sont ceux des personnes, parce qu'indirectement, elle a eu un impact aussi sur la vie des populations. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à Kouré sur votre moto. Vous êtes obligé soit de louer un véhicule ou de payer les véhicules qui continuent sur la route. Il y a un impact aussi sur eux. Donc l'économie, c'est sûr qu'il y a un manque à gagner.
Il vous a dit
qu'il y a 1500, à peu près 1500 visiteurs par an. Imaginez, même si c'est chacun de ces 1500 paye 10 000 francs. Ça fait combien de millions?
c'est beaucoup.
Qui ne vont pas arriver. Mmh. Or, les guides qui sont là-bas, de l'association de valorisation de l'écotourisme, ils vivent de ça. Leur salaire vient des petits versements faits par les gens qu'ils accompagnent. Ils se sont retrouvés presque sans rien aujourd'hui. Et il faudrait trouver un mécanisme pour qu'ils continuent d'exister. Les mesures prises au Niger...
Sur le long terme, c'est quoi?
Sur le long terme, je ne crois pas. La zone rouge, elle dépend des paramètres qui ne sont pas dépendants de notre volonté. Parce que la chancellerie, chaque fois qu'elle sent que ses ressortissants peuvent être menacés, ils mettent une couleur sur la zone. C'est eux qui le décident. Et ce n'est pas nos bruits qui vont l'enlever. Mais par contre, les mesures prises par le Niger, ce sont des mesures qui tendent à sécuriser la zone. Et ce ne seront pas des mesures qui vont rester éternellement.
Vous gardez l'espoir que
on ne peut pas
aménagé pour permettre aux gens de
renoncer
à
ça, c'est d'abord donner raison aux terroristes qui ont fait ça, parce que nous avons reculé. Par contre, il est nécessaire de mettre un dispositif efficace sur le site pour permettre à ceux qui le veulent, dans une zone bien déterminée, de mener leur excursion journalière de 2 heures ou 3 heures de temps et de revenir à Niamey. Ça, le gouvernement, il y a un dispositif. Ils sont en train d'étudier toutes les possibilités. Mais c'est toute une économie qu'on ne peut pas laisser partir. Comme ça. Déjà, le parc est fermé. Déjà, Ayourou, on ne peut plus visiter. Déjà, Simiri et autres, les sites culturels, on ne peut plus visiter. On ne peut pas non plus un site comme ça, important au niveau mondial, qu'on le garde fermé indéfiniment. Mais par contre, on peut mettre sur place un dispositif qui permette, dans un espace déterminé, d'assurer la sécurité pour permettre aux gens d'aller voir les gérants.
Monsieur Abdelaziz Taïa, un mot sur les conséquences sur le moyen et le long terme des décisions prises.
Et la population est en train de sentir vraiment l'impact négatif de ces actes posés par les terroristes et par l'État aussi, qui a décidé de fermer unilatéralement le site. Mais les dernières nouvelles que nous avons, vraiment, l'État et les partenaires, surtout le ministère de l'Environnement, le tourisme, la primature et certains partenaires, je crois, des mesures sont en train d'être prises pour pouvoir vraiment pallier à cet état de fait qui impacte sur la population. La fermeture, je crois, le dernier conseil des ministres a déjà annoncé les mesures prises dans ce cadre pour pouvoir vraiment assouplir, à permettre à la population d'aller sur le terrain visiter ces girafes. Parce que si on ne prend pas la fermeture, ça a d'autres conséquences. Parce que le braconnage que nous décrions là, il risque de vraiment
voir
le jour. C'est
justement une question que j'allais poser aux responsables de la zone.
Donc, mais maintenant avec vraiment...
Des mesures pour assouplir.
L'État a compris que vraiment il y a une urgence de vraiment réouvrir rapidement le site avec ce que vient de le dire le directeur et des mesures vraiment type de sécurité de la zone qu'il faut prendre pour vraiment quand les nationaux comme nos autres partenaires quand ils vont visiter aller sur le terrain qu'ils ne se sentent pas vraiment menacés.
Parmi les personnes qui sont mortes, donc tu es dans le drame, figure Kadir Abdou, qui est justement le président de l'association pour la valorisation de l'écotourisme au Niger. C'est une association de volontaires, des guides de cette zone. Et ils sont à peu près une douzaine de personnes, dont le fait Kadir. Alors, quel accompagnement et quelle protection pour les collègues justement du défunt Kadir Abdou avec,
quand il y a eu ce drame, aussitôt... En dehors de nos condoléances que nous avons présentées, nous avons même ouvert une quête pour venir en aide à la famille de Kadri. Et en dehors de ça, nous avons déjà interpellé l'équipe de droit pour vraiment prendre des mesures d'accompagnement par rapport à ce qui s'est passé. Je crois que c'est juste pour un laps de temps. Je viens de vous dire que déjà des mesures ont été prises pour permettre vraiment que l'activité continue sur le terrain. Donc, pour l'accompagnement, je crois, nous tous, nous sommes conscients que vraiment, la fermeture, ce n'est pas la solution.
Monsieur Alouza Maliki, responsable zone girafe,
on l'évoquait, avec cette fermeture, toutes ces mesures prises et avec la fermeture où peut-être qu'on n'a pas cette possibilité de bien suivre ces girafes, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour leur sécurité?
En fait, il y a eu des restrictions. Il y a eu des restrictions. C'est-à-dire qu'on ne permet plus aux gens de partir comme
ils veulent
habituellement. Maintenant, ce qui est demandé, c'est que, par exemple, qu'il y ait des escortes. Si vous êtes une agence de voyage, quand vous allez amener les gens, allez-y avec une escorte. Et quand vous arrivez au niveau de la zone girafe, donc les agents vont demander certainement votre circuit touristique, où vous voulez aller où, vous voulez aller où. Donc ils doivent suivre ça.
C'est des dispositions qui sont en train d'être envisagées.
Comme ça, et qui sont demandées à ce que les agences de voyage, chaque fois qu'elles vont aller dans la zone touristique, de prendre une escorte militaire pour se faire davantage sécuriser.
Mais actuellement, et la nous,
au niveau de la zone girafe, nous avons renforcé, notre effectif pour davantage assurer le bon suivi des mouvements des girafes. Ensuite, accompagner au besoin, en tout cas, des voyageurs qui le manifestent.
Donc les agents sinon, des eaux et forêts.
Sinon, il est demandé une escorte militaire.
Militaire. Et de l'autre côté, les agents des eaux et forêts aussi assureront
effectivement,
le suivi des
Ils font leur activité régalienne. En tout cas, c'est d'abord ça.
Des esprits malveillants ne vont pas profiter de cette situation pour nuire aux girafes?
S'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de ces activités, parce que chaque fois qu'il y a ces mouvements de touristes, ça veut dire en même temps, on voit les mouvements des agents, donc ça veut dire qu'on suit. Maintenant, si cette activité se perd, il y a des grands risques. Les grands risques, d'abord, un, parce que la population elle-même, la présence de touristes, ça les encourage, ça les fortifie. La population profite de la présence du touriste. Maintenant, si ça manque, ce qu'elle gagne là, elle va peut-être vouloir aller le gagner maintenant.
En faisant autre chose.
En faisant autre chose, notamment, il y a des risques il y a des risques d'abord de surexploiter l'habitat de la faune même.
Ouais.
Parce que les gens risquent de retourner dans le couple abusif de ces. Parce que c'est
pour la subsistance.
Oui, c'est ce bois qui est là. Hein, s'il est là, donc les animaux sont à l'aise parce que ça leur donne. C'est leur habitat qui est bien sécurisé comme ça. Maintenant, si on se met à détruire l'habitat, c'est que la girafe sera découverte, sera vraiment en insécurité de point de vue alimentaire et choses. Maintenant, deuxième élément, il y a effectivement ce risque de braconnage qui, si on n'est pas, on n'assure pas correctement le suivi, les gens donc peuvent se mettre donc à faire la
répression. Et vous dites que les effectifs à votre niveau
sont et il y a ces grands problèmes de conflits, qu'il y a entre la girafe et les populations. Maintenant, s'ils savent bien qu'il n'y a plus de suivi, il n'y a plus tout ça, ça veut dire que c'est la représailles effectivement de la girafe qui risque de se développer.
De refaire surface.
Voilà.
Alors, pour finir, au vu de tout ce que nous venons de dire, quels sont les principaux défis que les différents acteurs doivent relever à chacun ce qui les concerne, Monsieur Hanafi Souleymane?
Je voudrais revenir d'abord sur la desserte de la région. Parce que jusqu'à cette date, ce ne sont pas des agences de voyage qui amènent les touristes sur les sites. Chaque ONG prend son véhicule de service avec son chauffeur, sans le dire à qui que ce soit, sans itinéraire précis. Ils vont dans la zone, ils font leur tournée. Une d'elles a malheureusement fait une mauvaise rencontre qui a nui à tout le secteur. Il faudrait que les agences de voyage soient les interlocuteurs de ceux qui veulent visiter, parce qu'ils ont une responsabilité civile par rapport à l'État. Et on peut leur imposer une conduite pour sécuriser leur population. Deuxièmement, l'escorte. Pour les spécialistes de la sécurité, l'escorte, c'est ce qu'il faut. Mais nous, spécialistes du tourisme, nous savons que le tourisme, c'est l'utilisation de l'espace, du temps des loisirs. Et je ne crois pas que quelqu'un aime s'amuser quand il est suivi par des armes partout. Ce qui se passe, comme ce que j'ai vu au nord du Tchad, c'est que l'État met un dispositif
de surveillance dans la zone.
Permanente. La sécurisation de la zone permanente. Et souvent, les agences de voyage, vous ne voyez le militaire que quand vous avez une difficulté, ils apparaissent pour vous assister à continuer. Donc, pour la zone de Kouré qui est à côté de Niamey, et surtout pour laquelle le Niger a fait un investissement lourd.
Et continue
de le faire. Et qui nous a donné aujourd'hui une notoriété. C'est un des projets sur lesquels nous sommes fiers. Je vous dis que j'étais à Abidjan. Le ministre du Tourisme a visité, oui, la Côte d'Ivoire a ceci. Là. J'ai dit, monsieur le ministre, nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, regardez, j'avais des photos sur tout mon stand, des girafes. Vous n'avez pas ça. Il dit, oui, il faudrait que vous nous donniez quelques spécimens. J'ai dit, non, on ne donne pas. Donc, c'est quelque chose qui fait notre belle image. On doit trouver le moyen.
Donc, pour vous, si on doit prendre mettre des mesures, un dispositif. Peut-être les mesures doivent être sur le
même
terrain.
Même s'il est limité sur l'espace, il doit y avoir un dispositif qui sécurise la zone pour que les gens aillent. Mais ils ne doivent plus aller de manière anarchique. Il faut qu'il y ait des agences de voyage qui le font et qui sont responsables vis-à-vis. Par rapport aux itinéraires, nous, quand nous emmenons des groupes de touristes, nous ne faisons pas d'itinéraires. C'est l'association des guides de girafes. C'est eux qui, le matin, se promènent pour voir les localiser dans l'espace et ils nous tracent leur itinéraire et ils nous donnent le guide qui accompagne. Donc c'est ça. Voilà les mesures qui doivent être prises. Et si on le sécurise, il faut que moi, en tant que spécialiste du tourisme, je ne peux pas accepter qu'une visite aille et revenir comme ça sans profiter. Il faut que dans les villages, il y ait quand même des petits espaces où on peut restaurer tous ces gens qui viennent pour que l'argent dépensé reste à la population. Que les personnes reviennent avec des petits souvenirs et que ceux qui les transportent ou ceux qui interviennent puissent avoir quelque chose. Donc il faut que l'économie locale puisse profiter. On ne peut pas protéger une espèce, quelle qu'elle soit, que ce soit les girafes, les hippopotames ou autres, sans qu'il y ait des retombées pour la population. Et les populations, la seule retombée qu'ils peuvent avoir, c'est les visites touristiques. Ils vont acheter des choses avec eux et ça leur fait de l'économie. Ils vont savoir que c'est à cause de cet animal. Ouais. Et cela est valable aussi pour les hippopotames d'ailleurs.
Monsieur Hanafi, Monsieur Abdelaziz Taya, et par rapport aux défis et ce qu'il faut faire.
D'accord. Donc permettez-moi juste de, par rapport à la fermeture, c'est une fermeture provisoire. Et je viens de vous dire que les mesures ont été prises. Maintenant, c'est à nous de respecter les consignes, être accompagné par une escorte de FDS. Et même si on n'est pas accompagné, arrivé au niveau de Kouré, il y a une entrée où il faut vraiment se faire enregistrer et pouvoir continuer sur le terrain. Maintenant, nous proposons, en dehors de ce que l'État est déjà en train de faire, de doter aussi ces agents des moyens et matériels conséquents.
Lesquels agents?
Les agents de protection qui sont là-bas, le nombre, l'effectif, on peut encore l'augmenter. Et en dehors de ça aussi, les données, les matériels de communication. Il y a en dehors des agents, de ces agents éco-guides qui sont là dans la zone, et la population aussi, il faut qu'elle aille ses réflexes tout de suite de signaler un suspect. Parce que, je viens de vous le dire, j'ai encouragé la population parce qu'elle a accepté la présence de ces girafes dans la zone. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'elles ne collaborent pas aussi dans le cadre de la protection au-delà des girafes.
Des girafes, oui.
Parce que je viens de vous le dire, la présence de ces individus-là, elle est vraiment une menace, pas pour les girafes seulement, mais c'est pour tout le monde. Oui. Donc, en conséquence, il faut vraiment doter ces agents-là avec des moyens de communication modernes et certains postes où nous savons qu'il y a des individus qui sont là juste pour la protection et la surveillance, parce que c'est eux qui font remonter l'information jusqu'au niveau de l'autorité. Mais en dehors de ces éco-guides que je viens de vous le dire, il y a monsieur aussi les agents sur place qu'il faut renforcer aussi, la présence. Parce que si, comme vient de le dire le directeur, nous, le fait, on veut être vraiment comme des oiseaux en liberté qui peuvent circuler librement La présence de vraiment la tenue, ça, c'est, pour nous, ce n'est pas une discrétion pour
c'est
nous.
Ce n'est pas agréable.
C'est pas agréable. Mais, comme vient le dire, c'est un exemple qu'ils viennent de vous donner au Tchad.
Oui.
Ailleurs, on a vu.
C'est quand il y a un problème, des tout astuces suite, pour permettre.
Dans les deux minutes, trois minutes, avec les moyens de communication, on vient tous, ils viennent.
Oui, c'est comme ce que vous avez souligné. Donc, avec des moyens de surveillance un peu vraiment où on peut.
Nous avons une histoire de drones ou de ceci-là, ouais. Aujourd'hui, qui sont là en train de trucs. Oui. Avec ça, on peut tout de suite. Oui. Dès qu'il y a un truc, un suspect, avec, au niveau de la base, on va dire attention. On appelle un tel, faites attention. Nous avons vu des suspects, il faut faire prendre. Tu vois? Mm. Donc. C'est vraiment, c'est
donc renforcer un peu les mesures en tout cas de protection, de surveillance, et voilà, revoir aussi, mettre l'accent sur la collaboration des,
en tout cas,
des populations.
S'il y a d'autres radios qui interviennent dans la zone, c'est l'occasion aussi d'organiser des forums comme vient de faire le studio Kalangu pour vraiment attirer l'attention de la population et vraiment à continuer à apporter cette collaboration qui a toujours existé entre les agents de l'État et la population.
Alors nous terminons avec vous, monsieur Maliki Alouza, responsable de zone Girafe. Quel est votre mot de fin par rapport aux mesures en tout cas envisagées?
Oui,
ou à vos attentes par rapport
les
à...
Les grandes attentes, en fait, comme ils disent, hein, c'est que, en fait, on souhaiterait... En fait, on l'a déjà fait, hein, notre ministère a déjà renforcé, mais peut-être que ce n'est pas suffisant, parce que, comme je vous dis, la zone girafe, elle s'élargit.
Oui.
Chaque matin, les girafes, quand ça leur convient, ils avancent. Donc, et là, nous appelons la population... autant que faire se peut d'aller dans la passivité,
oui.
D'éviter de chasser, les girafes. Parce que la girafe, quand vous la pourchassez, au vu de sa taille, vous voyez, avec il suffit qu'elle trébuche quelque part, et c'est la catastrophe. Donc, il y a cet aspect de sensibilisation. Et effectivement, l'usage des drones, si...
Pour la surveillance.
Oui, ça va beaucoup aider parce que moi j'ai vu quelque part où le rôle du drone c'est très important. On était à Saint-Louis, vraiment on a vu comment facilement vous me réveillez le matin, vous activez, vous allez voir.
Tout de suite on peut avoir
tout de suite
une
vous pouvez
vue,
savoir tout ce qui se passe en tout cas sur 5-10 km au fur et à mesure, tant que vous pouvez. Manipuler votre drone, vous pouvez vraiment savoir ce qui se passe sur 10, 15 km, 20 km autour de là où vous êtes. Donc ces appareils peuvent nous aider.
Merci. Alors, merci et beaucoup. C'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur l'avenir du tourisme au Niger et cas de la zone girafe de Kouré. Merci à tous. Nous avons vu en tout cas que voilà ce drame qui est survenu à Kouré. En tout cas, c'est quelque chose qui touche tous les secteurs, qui touche pratiquement aussi beaucoup de personnes qui profitent de la présence de ces girafes dans la zone. Et les dispositions, en tout cas, des mesures ont été prises pour sécuriser la zone. Et des restrictions ont été d'ailleurs prises, mais les uns et les autres gardent l'espoir que ces mesures sont provisoires et que très bientôt, des mesures de protection nécessaires seront prises pour permettre à ce que la zone soit encore fréquentable. La collaboration des populations a été notée comme en tout cas un outil incontournable pour la protection et l'avenir de la zone girafe de Kouré. Merci à tous. Nous étions en compagnie de M. Anafi Souleymane, qui est directeur général de l'Agence de promotion du tourisme du Niger, APTN, M. Maliki Alhouza, responsable de la zone girafe au niveau de la direction de la faune du ministère de l'Environnement, et M. Abdelaziz Taya, président donc de l'association nigérienne des guides accompagnateurs de tourisme. Merci, je suis Alassane Kouzé Mahamadou pour la présentation de cette émission.